chers auditeurs, je vous propose de nous retrouver tout de suite pour parler de l'histoire du renseignement et de l'espionnage du Premier Empire à l'affaire Dreyfus. Et nous avons Éric Denessé. Bonjour Éric Denessé.
Allô, allô.
Oui, Éric Denessé, oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous, bonsoir Éric Denessé. Donc, vous dirigez le centre français, pardon, le centre du, vous êtes directeur du centre français de recherche sur le renseignement. Désolé, je vais y arriver. Vous êtes également politologue et, cher Éric Denessé, vous dirigez une revue qui est absolument passionnante. Et nous arrivons à quel tome? C'est le tome 5, sauf erreur de ma part?
Non, c'est le tome 3 de cette histoire mondiale du renseignement que nous avons lancée et qui comprendra 8 tomes, près de 4000 pages au total.
Eh bien, dites donc. Voilà. Et tout ça, bien, pour parler du renseignement à travers l'histoire, à travers les âges. Et vous abordez dans la dernière publication que vous, qui vient tout juste de sortir, vous abordez une période que je trouve absolument passionnante, qui est celle de entre Napoléon et l'affaire Dreyfus. Alors, je voudrais d'abord, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, c'est que vous nous disiez un petit peu comment vous procédez pour réaliser vos ouvrages et comment, pour nos auditeurs qui seraient intéressés pour les recevoir, comment doivent-ils procéder, comment doivent-ils faire?
Oui, alors d'abord, effectivement, en 2019, nous nous sommes posé la question et nous avons observé qu'il y avait une lacune en culture du renseignement en France, notamment en culture historique, et nous avons donc pris la décision, avec le soutien des éditions Ellipse, de créer cette histoire monumentale, en toute immodestie, si je puis dire, pour rétablir, redonner ses lettres de noblesse à la discipline. Donc un premier tome qui concernait l'Antiquité et le Moyen-Âge, un second tome qui allait de la Renaissance à la Révolution, et puis ce troisième tome, alors je pense que ça intéresse, plus on se rapproche des périodes contemporaines, plus ça intéresse les auditeurs généralement. Ce troisième tome qui va du Premier Empire à l'affaire Dreyfus. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit peu, je dirais, un déchirement en se disant on sépare la révolution de l'Empire, parce que c'est quand même une période qui généralement,
oui,
dans laquelle
oui,
il y a une grande continuité. Mais pour des questions de taille des livres et de, je dirais, de nombre de tomes, il a fallu trancher dans le vif. Alors
il y a un certain Fouché qui vous en voudra un peu quand même.
Ben voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on retrouvera plus ou moins dans ces deux tomes. Alors comment nous procédons? Ben d'abord, nous avons au CF2R une équipe de spécialistes anciens du renseignement, mais aussi des historiens comme Laurent Mouenard qui prendra la parole tout à l'heure. Et puis nous faisons, comme dans tout travail universitaire, un appel à contribution, ce qui nous permet d'obtenir un certain nombre de propositions de chercheurs officiels ou plus didactique, qui nous envoie des textes souvent très intéressants, et notre comité de lecture donc sélectionne ceux qui nous paraissent les plus pertinents. Alors, je dis pour les auditeurs qui sont intéressés, ils peuvent le trouver directement sur le site des éditions Ellipse, hein, www.ellipse.fr, sinon par le site de notre centre, www.cf2r.org.
Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions que nous rappellerons également en fin d'émission pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de les noter. Alors, moi, je voudrais maintenant, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai que vous l'avez dit, nous avions reçu pour votre tome 2, nous avions commencé à évoquer évidemment la période de la Révolution, et comme vous l'avez dit à juste titre, c'est vrai qu'il est délicat de séparer la période de la Révolution. Mais alors, du coup, où est-ce que, du Premier Empire, où est-ce que vous avez mis le consulat?
Alors, le consulat flotte un petit peu entre les deux. Vous avez raison de le signaler. Alors, il faut aussi dire que nous ne visons pas à l'exhaustivité, parce que nous avons à chaque fois à peu près 25 articles rédigés par une vingtaine d'auteurs. Et bien évidemment, ceux qui ont envie de lire ces livres en creux vont tout de suite découvrir qu'il y a des tas d'aspects qui font défaut. Alors, nous envisageons dans 7 ou 8 ans une seconde édition, le temps que nous ayons terminé les 8 premiers tomes. Mais évidemment, il y a des zones qui ne sont pas couvertes, mais au moins ça fait naître ce besoin de dire tiens, il y a tel ou tel aspect que vous n'avez pas évoqué.
Oui, oui. Et alors, donc ça veut dire que, par exemple, sur un tome, vous pourriez tout à fait revenir sur celui, par exemple, de Napoléon au Premier Empire, vous pourriez tout à fait revenir sur celui-ci?
Oui, mais ça veut dire qu'il faudrait aussi que les premiers livres se soient vendus et que l'éditeur décide que ça vaille la peine, si vous voulez, parce que on pourrait tout à fait faire des éditions ultérieures, corrigées et enrichies, bien évidemment.
Donc, moralité, tout dépendra du succès de vos ouvrages.
Absolument.
Bon. Alors, vous avez demandé également à un général, le général Michel Masson, une préface. Pourquoi avoir choisi ce personnage?
Bah écoutez, il nous semblait important dans des ouvrages qui réunissent à la fois des anciens praticiens comme c'est notre cas au CF2R et des universitaires distingués, puisqu'on a des gens de très grandes universités, français, étrangers, hein, canadiens, hongrois, américains également, espagnols. Et à chaque fois, les livres de la collection seront préfacés par un ancien patron des services de renseignement. Le premier tome a été préfacé par le général Mermet, qui était un ancien directeur de la DGSE. Le second tome par le préfet Yves Bonnet, qui est ancien directeur de la DST. Le troisième tome était donc, nous avons demandé à Michel Masson, qui était patron du renseignement militaire, de nous faire donc la préface de cet ouvrage. Voilà, oui. Ce sera pareil pour les années suivantes sur les autres tomes.
Oui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Sous le Premier Empire, on a quand même un service du renseignement qui s'organise de façon considérable.
Oui, alors c'est ça qui est
intéressant. Je parle en France, en particulier.
Oui, bien sûr, parce que l'essentiel, bien sûr, est orienté sur la France, même si nous évoquons quelques autres aspects. Il est vrai qu'avec, après les soubresauts de la Révolution et la reprise en main de la France par Bonaparte puis Napoléon Ier, ce chef de guerre hors du commun, il y a bien sûr une structuration assez phénoménale de renseignement militaire, mais aussi du renseignement intérieur, puisque l'Empire n'était pas une démocratie au sens actuel du terme, mais qu'il lui fallait contrôler ce qui se passait sur son territoire, d'autant que son territoire n'a cessé de s'étendre en fonction des conquêtes. Donc on voit vraiment sous le Premier Empire une structuration très nette du renseignement français, tant sur le plan du renseignement militaire que du renseignement policier. On le voit par quelques aspects que nous évoquons ponctuellement aussi, le renseignement diplomatique, mais qui est moins mis en lumière et qui est normalement, tout à fait logiquement, un peu moins important que les deux autres sous le règne de Napoléon.
Oui. Alors, vous le dites, à juste titre, tout s'organise. Sous la direction de qui? Est-ce que c'est sous la direction directe de Talleyrand ou est-ce que Nicolas Fouché a son... c'est Nicolas Fouché, son prénom?
Non, c'est pas Nicolas, son nom m'échappe à l'instant. Ça me reviendra. Non, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord un renseignement militaire qui est au cœur de toutes les préoccupations de l'empereur. Et là, on a des très bons papiers de Jean-François Brun et Michel Rocco sur la manière dont le renseignement militaire se structure sous le Premier Empire. Comment est-ce que les officiers font leur travail, les bureaux de la statistique, les cartes, toute la reconnaissance, tout ce qu'on doit connaître avant de mener des opérations. D'ailleurs, jusqu'à quelques erreurs, d'ailleurs funestes, avant la campagne de Russie. Et puis, en parallèle, on travaille, alors bien sûr, dans ce renseignement extérieur...
Comment ça, erreur funeste?
C'est-à-dire que on se rend compte que, et là j'invite les lecteurs à s'intéresser à ce texte, c'est qu'on se rend compte que la campagne de Russie a été beaucoup moins préparée en matière de renseignement et de cartes par l'empereur que ces autres campagnes qui avaient lieu aussi bien en Autriche, en Prusse, et qu'on peut y voir une des raisons pour lesquelles ce manque de préparation en matière de renseignement, pas nécessairement en matière militaire, lui a fait défaut pour véritablement surprendre ses adversaires. On parlait de Talleyrand tout à l'heure, il est bien sûr évoqué dans ses articles, mais la personne qui est la plus mise en valeur, c'est Schulmeister. Schulmeister, qui il y a quelques décennies faisait l'objet d'une série télévisée très, très célèbre, a été un espion de Napoléon, mais qui était piloté par Savary, bien que ce soit du renseignement extérieur, et non pas par Talleyrand. Et puis, ça c'est important, Talleyrand apparaît en filigrane, nous n'avons pas eu de contribution majeure sur le ministre des Affaires extérieures, de la même manière que nous n'avons pas voulu centrer non plus sur Fouché, qui lui-même est malgré tout, bien sûr, évoqué au cours de ce travail.
Moi, je trouve ça bien dommage, si vous me permettez, parce que quand même, si le congrès de Vienne a été, on ne va pas dire gagné par la France, mais si la France en est si bien sortie, c'est quand même grâce aux espions de Talleyrand. Et je me souviens de cette phrase de Talleyrand qui disait au roi Louis XVIII, « Ne m'envoyez pas de l'argent, envoyez-moi plutôt des cuisiniers ». Puisque en vérité, ces serveurs étaient espions et entendaient récupérer toutes les informations qu'ils entendaient pendant les repas.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure et comme vous le comprenez, c'est un ouvrage qui est fondé sur des appels à contribution. Et
Bien
donc,
sûr,
nous
bien sûr.
avons, voilà, donc bien sûr
Bon,
que nous avons
alors,
adopté,
ils ont oublié talent.
voilà,
Bon.
voilà. C'est pas un choix délibéré, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas trouvé de personnes suffisamment spécialistes pour nous faire un article de qualité sur le rôle du renseignement sous Talleyrand. Voilà, et les spécialistes de Fouché n'étaient pas non plus disponibles
Et
pour nous.
Fouché, oui, pourtant
Voilà,
Fouché, Dieu
mais
sait
bien
si
sûr, il y a de nombreux
il y a eu
ouvrages
des
en plus,
séries
ouais, voilà.
télévisées
Tout à fait.
sur Fouché. Ouais. Alors, donc, vous l'avez dit, il y a le renseignement, mais il y a également le contre-espionnage qui doit
Alors,
exister en France, parce que les Anglais
absolument.
nous envoient quand même pas mal d'espions à cette période-là.
Oui, alors au cours de cette période, le renseignement anglais est très agressif contre la France. Bien sûr, il a d'abord été très très actif sous la Révolution pour contribuer à déstabiliser le pays, puis il continue pour faire pièce au
Oui, parce
développement
qu'on
de
leur doit quand
l'Empire.
même un peu les dérives de la Révolution, hein, aux Anglais, il
Ben,
faut le rappeler.
en partie, ils n'ont pas joué un rôle tout à fait mineur, dirons-nous.
Non, mais enfin,
Et
exactement, ils n'ont pas joué un rôle mineur,
voilà.
absolument, vous avez raison. Puisque le débarquement, par exemple, du comte d'Artois sur les côtes vendéennes, a été
Organisé avec le
arrêté
soutien, bien sûr.
par les Anglais, sous de fausses informations.
Et alors, donc, on aborde cet aspect du renseignement anglais et du rôle qu'il a joué dans le piège, dans la campagne d'Espagne, et notamment avec un très bon papier de Gaël Pilorget sur le rôle la manière dont le renseignement, la propagande et la guérilla se sont coordonnés ensemble, à la fois, bien sûr, du fait des Espagnols qui n'étaient pas d'accord avec la politique française, mais surtout avec ce soutien majeur, à la fois de l'armée, mais surtout du renseignement britannique, pour faire en sorte que cette campagne d'Espagne se transforme en un piège pour les troupes de l'Empire et une forme de déroute militaire qui nous a conduit, bien sûr, à quitter ce pays. Donc
Donc,
voilà les aspects les majeurs que sur le Premier Empire.
oui, donc ça veut dire que concrètement, si la France est tombée dans le piège espagnol, dans le bourbier espagnol, d'après vous, c'est en grande partie dû au renseignement anglais
Non, c'est-à-dire que
ou
le
à
fait que la
l'espionnage?
que Non, non, le fait que la France soit rendue en Espagne est une décision
Oui, mais
stratégique
ça,
et
bien sûr. Non,
voilà.
mais je
Mais
parle
après,
du fait
une
que.
des raisons de la défaite, elle est d'abord
Oui.
liée à la résistance et à l'attitude du peuple espagnol contre les troupes françaises. Mais dans son action, celui-ci a été très largement aidé par les fonds et par le renseignement britannique qui ont contribué à son succès.
Alors, donc ça c'est pour l'Espagne. Est-ce qu'il en est de même pour la bataille de Trafalgar et
Alors,
Waterloo? Est-ce que les services
et
de
non.
renseignement étrangers ont joué ou français ont joué un rôle important?
Malheureusement, sur ce sujet essentiel que vous évoquez, nous n'avons pas de contribution qui nous permette de nous prononcer sur le rôle du renseignement naval. Et d'ailleurs, le renseignement naval sous le Premier Empire est assez peu développé, et donc nous n'en avons pas de traces majeures, mais nous continuons les recherches en parallèle et peut-être que dans une seconde édition, nous serons conduits à l'aborder.
Oui, d'accord. Donc a priori, d'après vous, il n'y en avait pas, peu.
Ah ben il y a toujours, bien sûr,
Il y a
pour la
toujours eu.
tentative d'invasion de la Grande-Bretagne, il y avait
Ah
un
bah oui,
certain
ça y est,
nombre
oui.
de renseignements qui étaient faits, mais c'est plus du renseignement sur l'objectif qui était les îles britanniques que sur un véritable renseignement naval, comme on l'a vu malheureusement à Aboukir et à Trafalgar, où la marine française était moins bien informée que son adversaire britannique.
On comprend toute l'importance justement des services de renseignement. Concernant le renseignement militaire sous le Premier Empire, est-ce que c'est Napoléon qui organise tout? Comment ça se passe?
Oui, sur cet aspect des choses, l'empereur a vraiment une vision extrêmement large depuis le renseignement jusqu'à l'organisation des forces, l'artillerie, la logistique. C'est vraiment un génie militaire qui couvre tous les aspects. Et bien sûr, le tout entouré de son état-major et de son fidèle chef d'état-major Berthier qui l'aide à rédiger un certain nombre d'ordres qui est donné, ce qu'on appelle l'orientation, des ordres qui sont donnés aux capteurs que l'empereur a sur le terrain, qu'il s'agisse de l'unité légère de cavalerie de la reconnaissance, qu'il s'agisse aussi des espions envoyés en avant des troupes, dont Schulmeister est un très bon exemple, et également de la police, c'est-à-dire de la gendarmerie qui accompagne les armées pour faire du contre-espionnage. Voilà, on a là une gamme assez large des actions de renseignement des troupes de l'Empire, et on voit bien comment tout cela est commandé par Napoléon et son état-major.
Concernant justement Schulmeister, vous nous présentez un peu le personnage?
Hein, Schulmeister est un véritable personnage de roman, ancien contrebandier de la région de Strasbourg, qui franchissait le Rhin pour des trafics peu avouables pendant longtemps, et puis qui un jour se fait prendre et est recruté par Savary, qui était le patron de la gendarmerie, et qui commence à l'utiliser pour se renseigner sur ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et puis petit à petit, Schulmeister, qui a su développer ses réseaux, qui est un homme extrêmement astucieux, qui parle plusieurs langues, qui a un don du déguisement, mais surtout du double jeu tout à fait extraordinaire, eh bien commence à étendre son influence, à avoir une véritable capacité à ramener du renseignement de niveau stratégique dans toute l'Europe centrale, et jusqu'à se faire embaucher comme conseiller auprès du général Mack et de jouer un double jeu extraordinaire, c'est-à-dire un officier de renseignement qui fait une mission d'intoxication et qui permet finalement à Napoléon de s'emparer assez rapidement de Vienne. Donc c'est vraiment un personnage de légende qui a joué un rôle très important en cette période.
Est-ce que Napoléon le remerciera ?
Alors, effectivement, il ne sera pas très, il ne sera pas grandement remercié.
Pas très gratifié, hein.
Très gratifié pour son action.
Est-ce que c'est dû à son passé, sans doute ?
Alors, c'est lié à son passé, mais j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui connaissent ce monde du renseignement, les espions ou les officiers de renseignement ne sont jamais véritablement gratifiés. Leurs actions restent souvent dans l'ombre, passent sous silence, et les commanditaires et les décideurs, le plus souvent, ne mesurent pas la portée de ce qu'ils ont réalisé.
Ouais.
Ça n'a guère changé, d'ailleurs, depuis le Premier Empire, on peut le dire.
Donc, moralité à ceux qui seraient tentés pour servir le service de renseignement français, ne vous apportez pas grand-chose en retour. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Mais déjà, c'est une chose que ceux qui s'engagent dans cette voie savent, parce qu'effectivement, quand on choisit la voie de l'ombre et de la dissimulation, on dit souvent dans l'enseignement, nos victoires demeureront inconnues et nos rares échecs seront bien sûr très fortement médiatisés.
Absolument. C'est très joliment dit. Donc nous avons parlé du Premier Empire, et moi je voudrais que l'on aborde, alors évidemment c'est un peu dommage que nous allons très vite, mais bon, nous n'avons pas le temps évidemment de tout évoquer. Maintenant je voudrais que l'on évoque la période de Louis XVIII. Est-ce que Louis XVIII, s'il arrive sur le trône, est-ce que, bon, on le sait, c'est avant tout grâce quand même au fait que les alliés qui combattent la France, évidemment, veulent renverser Napoléon et le renversent et mettent, donc remettent la couronne de France sur le trône. Mais est-ce que Louis XVIII a avait des espions pour essayer, ou même du service de renseignement, pour essayer de savoir et d'influencer, on va dire, les alliés?
Écoutez, d'abord, à cette époque-là, parler d'un service de renseignement, surtout pour Louis XVIII, est totalement inapproprié. Il avait des informateurs par ses partisans et par ses relations avec les États étrangers qui facilitaient son retour au pouvoir en France. Donc, de nombreux informateurs de toutes sortes, mais ce qui veut dire aussi beaucoup de bruit et beaucoup de choses fausses. Non, en aucun cas, Louis XVIII n'a eu de service de renseignement. D'ailleurs, son règne a été, d'abord, avant de revenir au pouvoir, il n'en avait pas, et quand il est revenu, la volonté qu'il a eue de faire table rase du passé révolutionnaire et napoléonien, finalement, c'est de là qu'apparaît la véritable régression du renseignement français dès la fin du Premier Empire.
Et pourtant, Fouché, lui, a continué à œuvrer.
Oui, mais pas très longtemps, et puis uniquement sur des aspects de renseignement intérieur. Nous avons toujours été en France meilleurs en renseignement intérieur et en surveillance de la population que nous ne le fûmes en matière de renseignement extérieur, et surtout à cette époque, finalement, tous les acquis de la Révolution d'une part et surtout du Premier Empire en matière de renseignement extérieur ont été totalement laminés par le retour au pouvoir des Bourbons.
Ouais. Donc, du coup, sous Louis XVIII, Charles X... rien du tout, ou presque, tout le monde disparaît dans la nature. Est-ce que certains, du coup, font double jeu, c'est-à-dire passent à l'ennemi?
Non, pas véritablement. On peut vraiment dire que c'est une période noire du renseignement français, non pas sombre plutôt, non pas en raison d'échecs, mais tout simplement parce que c'est une période de vide et que ce qu'on a vu émerger à partir de Louis XI, qui s'est structuré progressivement sur la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, le rôle du renseignement après sous Louis XIII, puis Louis XV, et jusqu'au début du règne de Louis XVI, pendant la Révolution et l'Empire, disparaît totalement en cette première moitié de XIXe siècle et ne renaîtra que progressivement progressivement, je dis bien très progressivement, sous le Second Empire, et notamment lacunes de cette période lorsqu'il a fallu tout reconstruire expliquent entre autres les défaites que nous avons connues en 1870.
Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Donc d'après vous, si on a été si mauvais à Sedan ou ailleurs, c'est à cause de notre faiblesse au niveau des renseignements, du service d'enquête.
Oui, alors il y a toujours eu une forme de renseignement chez les militaires parce qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas opérer sans renseignement, mais il y a eu quand même de graves lacunes parce qu'il avait été fait table rase. Alors il y a de très bons papiers d'Olivier Lahaye sur le sujet dans notre ouvrage. Ça a été effectivement un renseignement ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nous passons par une phase sombre et notre reconstruction est lente et partielle, alors même qu'en Europe, nos principaux adversaires, eux, continuent une croissance, ils partent de plus loin que nous, mais très rapidement, eh bien, on découvre que les Prussiens et les Britanniques nous dépassent très très vite, et là où le renseignement français s'est affaissé et devenu faible, on est confronté à des adversaires qui sont beaucoup mieux informés, beaucoup mieux organisés que nous, et ça entraîne un véritable déséquilibre. Alors, à quelques exceptions près, il y a un très très bon article d'Éric Taladoir, professeur à Paris 1, sur le rôle du renseignement dans la contre-guérilla au Mexique. Vous savez que sous le Second Empire, l'expédition mexicaine avait été quelque chose d'assez important, et dans la lutte contre la guérilla, et calamiteuse, notamment contre les troupes de Juarez, le colonel Dupin a monté un système d'anti-guérilla fondé sur l'enseignement, très original et très efficace, dont Éric Taladoir raconte les grandes lignes.
D'accord. Alors, du côté, vous avez parlé de l'Europe et du côté de la Russie, est-ce qu'on a un service de renseignement bien installé, bien construit,
oui,
ou pas du tout?
Oui, absolument. C'est une période où aussi bien en Russie, en Prusse, on parlait plutôt de la Prusse à l'époque que de l'Allemagne, nous avons quelque chose de très fort. Les Britanniques se restructurent eux-mêmes de manière très efficace. Et puis, je vous en parlerai, je pense, dans un instant. On va aussi voir comment le renseignement américain, lui, commence à émerger. Mais c'est vrai que nous avons plutôt orienté ce tome sur les questions du renseignement français. C'est vrai qu'on y aborde relativement peu le renseignement britannique, le renseignement prussien et le renseignement russe. Nous avons préféré nous centrer sur vraiment le développement de la manière dont l'enseignement français connaît cette période d'éclipse et puis se redéveloppe sur la fin du siècle, avec notamment un point intéressant sur la partie du renseignement français qui a été la moins touchée. C'est celle du renseignement naval, peu présente pendant l'Empire, mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, c'est surtout le début des grandes aventures coloniales. Et donc, plus que d'autres armées, la marine, très rapidement, va développer la notion d'attaché naval, donc le développement du poste d'attaché naval, comment ça se structure. Et puis, on voit très bien comment, en Méditerranée, qui est le principal théâtre d'affrontement naval, comment ce renseignement français se développe, et notamment en surveillance de Constantinople, voilà, avec des textes de Patrick Louvier et d'Alexandre Sheldon Duplex, qui sont des historiens du renseignement naval très, très pertinents.
Ouais. Alors, donc, Napoléon III, vous nous l'avez dit, remet un peu les services de renseignement en place. Qu'est-ce qu'il fait finalement? Il s'appuie sur ce que son oncle Napoléon Ier avait mis en place?
En réalité, il ne remet pas vraiment les choses en place. Ce sont les armées qui elles-mêmes se restructurent et le font. Mais à la différence de son oncle, Napoléon III n'a jamais accordé une grande importance au renseignement, ce qui explique la faiblesse au cours de cette période. D'abord parce qu'il ne se lance pas dans de grandes aventures. Il y en a quelques-unes, mais rien de comparable avec ce qu'avait fait Napoléon Ier. Il lui faut aussi consolider son pouvoir, évidemment, et ça c'est quelque chose d'assez important. Et puis quand il décide de mener après la guerre contre la Prusse, on se rend compte à ce moment-là que le peu de choses qui a été faites finalement sont insuffisantes pour tenir tête aux renseignements et à l'armée allemande qui sont supérieurement organisées.
Ouais. Donc finalement, dès le départ, pour vous, c'était perdu dès le départ?
Oui, c'est vraiment la période sombre du renseignement français, et il faudra attendre la crise qui a été la défaite de 1870, finalement, pour que soit créé au sens propre le deuxième bureau. C'est la naissance du renseignement véritablement officiel en France, parce que avant nous, les Allemands, les Prussiens avaient réussi à recréer ce genre de service, et qu'on va tirer les leçons de cette défaite de 1870, et la Troisième République, petit à petit, va restructurer un renseignement qui prendra, alors ça c'est un autre sujet, mais qui prendra vraiment son ampleur en 1914.
Ouais. Tout à l'heure, vous parliez vous me disiez que les Russes avaient donc un service de renseignement qui était tout à fait efficace, mais pourtant, malheureusement, c'est ce qu'a perdu le tsar.
Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'un service de renseignement est efficace, et notamment l'Okhrana, qui était un service de police tout à fait remarquable, qui intervenait, enfin remarquable et je dirais aussi parfois inhumain, et qui intervenait à l'extérieur, parce que le renseignement russe était principalement orienté dans le monde entier, dans la surveillance de l'opposition. Mais il a été confronté très rapidement aux structures clandestines bolcheviques, et finalement, à ce jeu-là, les bolcheviques ont été beaucoup plus fins, mesurant à la fois parfaitement les techniques de subversion, d'agitation propagande et de déstabilisation. Et finalement, s'ils ont réussi à renverser le régime du tsar, c'est aussi parce qu'ils ont su parfaitement comprendre les faiblesses et les contradictions de la société russe et qu'ils en ont tiré parti, en dehors du fait qu'ils ont bien sûr lancé ces opérations au moment de la Première Guerre mondiale, qui, on le verra quelques années plus tard, qui sera assez catastrophique pour l'armée russe.
Bien sûr, absolument. Alors, je sais qu'il vous reste très peu de temps, puisque vous devez nous quitter dans 2 minutes, mais je voudrais, avant que nous nous quittions, que vous nous rappeliez comment nos auditeurs peuvent se procurer vos ouvrages et nous rappeler les titres des ouvrages qui sont déjà sortis, s'il vous plaît.
Voilà, alors les 3 tomes qui sont apparus. Le premier tome est consacré au renseignement sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le second tome est consacré au renseignement depuis la Renaissance jusqu'à la Révolution française incluse. Et le troisième tome, qui est sorti il y a quelques semaines, va du Premier Empire jusqu'à l'affaire Dreyfus. Vous pouvez trouver ces 3 tomes soit sur notre site www.cs2r.org, soit sur le site des éditions Ellipse, donc www.edition-ellipse.fr, et vous tapez renseignements et espionnage et vous aurez ces 3 tomes pour plus d'informations.
Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous dirigez le Centre français de recherche sur le renseignement, Éric Denessé, et que vous êtes également politologue. Merci beaucoup, que vous dirigez à merveille, et pour
merci
notre plus grande passion. Bonheur. Donc je souhaite une très bonne soirée, je vous en remercie. Nous accueillons également Laurent Moinard. Bonjour Laurent Moinard.
Bonsoir monsieur.
Alors, Laurent Moinard, vous êtes historien et chercheur associé du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, vous m'avez permis de briller ce midi en société parce que grâce à vous, j'ai pu raconter, tout le monde a été surpris, que la CIA avait été créée par un neveu de Napoléon Ier.
Alors, attention, non pas la CIA, mais le FBI.
Le FBI, pardon. Oh là là, le FBI, c'est déjà énorme. Le FBI.
C'est tout à fait autre chose.
Alors racontez-nous ça, c'est quand même assez incroyable.
Alors, exactement, c'est peut-être un épisode qui est très, très, assez peu connu, très, très méconnu. Et en fait, le fondateur, on associe souvent, si vous voulez, le FBI à la figure tutélaire, on va dire, jupitérienne de Hoover. Mais Hoover a été un dirigeant du FBI pendant. Donc, il lui a donné le nom, en fait, de FBI. Il a été un dirigeant pendant une 50aine d'années. Mais le FBI, avant Hoover, existait. Et c'est un arrière-petit-neveu de Napoléon Ier qui l'a créé en 1908. Et cette personne s'appelait Charles-Joseph Bonaparte Patterson. Et cette année, on fête un bicentenaire autour de l'empereur, mais il y a 100 ans, Charles-Joseph Bonaparte Patterson décédé, donc c'est le centenaire aussi de son décès. Et cette personne, qui était un homme politique américain, donc avec une ascendance française, était un ami de Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Et par cette amitié et son combat politique qui était commun, d'intégrer la haute fonction publique américaine, de devenir ministre de la Marine des États-Unis, entre autres, puis ministre de la Justice au début du XXe, en 1906, et un peu plus tard, créer le FBI en 1908, ce qui allait devenir le FBI.
Alors, parlons de ses ascendances un peu. Il est le descendant de qui? C'est Joseph était parti en... Non, c'est pas... C'est Joseph qui était
non,
parti aux États-Unis.
Non, c'était Jérôme.
C'est Jérôme, pardon.
Voilà. Donc, c'était le plus jeune... Voilà.
Oui.
C'était le plus jeune frère de... C'est un arrière-petit-fils de Jérôme.
Un arrière-petit-fils de Jérôme qui avait fait
Voilà.
fortune, qui avait construit la plus belle propriété, paraît-il, des États-Unis, si, sauf erreur de
Alors,
ma part.
c'est ce qui se dit, oui, tout à fait. Et en fait, Jérôme, donc l'oncle le plus jeune frère de Napoléon, avait été envoyé par Napoléon, par l'empereur, un petit peu envoyé faire ses preuves, on va dire, dans la marine française, et un petit peu aussi éloigné, parce qu'il était un homme assez fougueux, assez amoureux de la vie. Et donc, entre guillemets, on va dire aujourd'hui, pour calmer un petit peu ses ardeurs et pour lui apprendre la vie, et puis pour faire ses preuves, parce que Napoléon estimait que ses frères comme lui devaient honorer la patrie, la nation et faire leurs preuves. Donc, l'a envoyé au bon soin, je crois, de l'amiral Gontaume. Et à un moment, donc, au large des Antilles, la flotte française et le navire sur lequel se trouvait Jérôme ont un petit peu guerroyé, ont fait escale à quelques semaines après sur la côte est des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que Jérôme a fait la connaissance d'une jeune, jolie et riche héritière américaine. Et c'est de là qu'est née la branche américaine, cette branche-là américaine des Bonaparte.
C'est une branche officielle ou c'est un mariage officiel ou c'était officiel?
Alors, c'est un mariage qui a été, on va dire, officiel, mais qui jamais ne sera accepté par l'empereur.
Parce que elle est pas, c'est une roturière et qu'il aurait voulu quelqu'un d'un peu mieux.
Et surtout parce que ça est fait sans le consentement, l'avis
Ah, ben oui, très juste,
de
j'oubliais
l'empereur.
qu'il devait valider absolument chacun
Voilà,
des
tout à fait.
mariages, je fais bien de le rappeler.
À tel
Absolument.
point que quand c'était Elizabeth Patterson, à tel point que quand elle a voulu rentrer à un moment enceinte, l'empereur a bloqué tous les ports et les frontières pour qu'elle ne puisse pas le rentrer. Et il fera pression jusqu'au bout pour que Jérôme renie et abandonne sa dulcinée, ce qu'il fera un peu plus tard, mais il tiendra tête un certain temps et puis naîtra un fils. Qui
Le
s'appellera
grand-père.
Bonaparte Patterson, et qui donnera deux enfants, un Jérôme Napoléon qui sera militaire comme son illustre grand-père, qui étudiera à West Point et qui, à un moment, va rejoindre les armées de Napoléon III et s'illustrer à Sébastopol et à Solferino, et un second fils qui sera Charles-Joseph et qui fondera, donc, on va dire, un demi-siècle plus tard, le fameux Bureau of Investigation qui deviendra le FBI, nom donné par Hoover.
Écoutez, c'est assez amusant. Est-ce
Ouais.
que cette branche de la famille Bonaparte existe toujours, d'ailleurs, aux États-Unis?
Non, elle s'est éteinte avec le décès de la mort de donc il y a 100 ans de Charles Joseph, qui était marié avec une Américaine qui s'appelait Mademoiselle Channing, mais qui n'ont pas eu d'enfant. Donc cette branche-là s'est éteinte à ce moment-là.
Ouais. Et donc sa pauvre, la pauvre femme de Jérôme, donc, a été abandonnée par son mari, lamentablement.
Alors, on peut le dire parce que je crois même qu'à un moment ils se sont recroisés, mais bien plus tard, je crois que c'était en Italie, et en fait ils se sont croisés, ils se sont frôlés, mais ils se sont ni dit un mot, ni même regardé.
Ignoré. Ouais.
Voilà, ignoré. Ouais.
Ouais, c'est assez triste, même très triste.
C'est triste. Ouais.
Il crée le FBI. Alors, c'est une demande qui lui est faite, c'est une commande qui lui est faite de créer un service de renseignement, ou c'est une initiative et à cause de la guerre de sécession, comment ça s'est passé?
Ah non, alors c'est la guerre de sécession, non, ça a lieu quelques décennies plus tôt. En fait, c'est tout
Oui,
ce que vous
justement,
voulez
est-ce que
dire. Oui.
j'allais dire le résultat logique, la suite logique de ce qui avait été mis en place pendant la guerre de sécession? C'est ça ma question.
Alors, non. Je ne crois pas. Ce qui va procéder à la création de ce qui va devenir le FBI, c'est un combat politique, on va dire. Mais que Charles-Joseph Bonaparte mène, allié à Theodore Roosevelt. Parce que les deux ont, on va dire, la même culture, la même aussi éducation, ils ont fait Harvard. Et ils ont le même souci, ce sont des catholiques, et ils ont le même souci de lutter, si vous voulez, contre les trusts, contre les monopoles et contre le big business qu'ils appellent, c'est ce qu'ils appellent ainsi on va dire les milliardaires qui dominent la vie américaine, notamment qu'elle soit politique par la corruption industrielle et commerciale et sociale. Et donc, ils ont cette volonté de réformer la vie politique et la vie publique. Et Roosevelt, quand il devient président au tout début du XXe, donc qu'il est lié d'amitié avec Bonaparte donc depuis plusieurs années, fait venir Bonaparte dans son cabinet, lui donne la réforme donc dans cette droite, dans ce droit fil, dans cet esprit, la réforme par exemple des affaires postales, la réforme du bureau des affaires indiennes, le ministère de la Marine, et à un moment lui dit voilà, tu deviens ministre de la Justice et tu vas mener les réformes et tu vas casser les trusts, notamment la Standard Oil, l'American Tobacco. Tout ça pour une volonté de réforme politique et une réforme d'assainir la vie sociale. Et c'est à ce moment-là que Roosevelt et Bonaparte donc mènent ce combat, mais vraiment assez fort, assez violemment, en opposition avec de nombreux industriels et aussi en opposition à certains hommes politiques qui sont corrompus et qui profitent de ce business. Mais les deux hommes, à un moment, voient qu'ils sont limités. Ils n'ont pas les moyens nécessaires, notamment d'enquêteurs, pour mener à bien, et surtout d'enquêteurs, on va dire, intègres, ne répondant qu'aux ordres et ne rendant des comptes qu'aux ordres du ministre de la Justice. Et c'est à ce moment-là que, pour s'affranchir et pour mener à bien ce combat politique, ils créent cette force indépendante d'enquêteurs du ministère de la Justice, qui va devenir le FBI.
Ce FBI, comment recrute-t-il les hommes ?
Alors, ce FBI, au départ, va les recruter dans différents services qui existent déjà et qui luttent un petit peu contre certaines fraudes, mais pas les plus importantes, on va dire, ou contre certaines contrefaçons, ou contre certains trafics. Alors, il va essentiellement les recruter dans le ministère des douanes, dans le ministère des postes, qui est très important à ce moment-là, et au sein du Secret Service. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Secret Service, ce sont les hommes qui protègent le président, hein, qu'on voit à la télévision ou aux informations. Mais à la base, le Secret Service, c'est un service qui dépend du ministère du Trésor et qui lutte en fait surtout contre la contrefaçon et la fausse monnaie. Et c'est au moment de l'assassinat du McKinley et donc la venue de Roosevelt que le Secret Service va intégrer un petit peu ce ministère de la Justice et devenir donc pour partie cette force d'enquêteurs indépendants du futur FBI. Donc ça, c'est un premier recrutement. Le deuxième recrutement en parallèle, ce sont des individus qui vont être choisis par Bonaparte, par le ministère, puis après formés, préparés, et au fur et à mesure, la force va s'agrandir, et ça sera tout le mérite, notamment de Hoover, qui va rationaliser tout ça et donner beaucoup plus de moyens.
Et on ne s'inquiète pas, alors même si c'est le FBI et que c'est le service de renseignement intérieur, on ne s'inquiète pas de ces liens, on va dire, passés, ancestraux avec la France, qui pourraient faire en sorte qu'il ne soit pas un bon patriote ?
Alors, et c'est une excellente remarque, parce que au début, quand ce projet de loi, si vous voulez, va être amené, va être proposé, cette création d'une force spéciale d'agents va être proposée, le Congrès, notamment les hommes politiques américains qui s'opposent à ça, parce qu'ils sont un petit peu, on va dire, ou pour certains, beaucoup impliqués dans des affaires de corruption, vont se méfier de cette force-là, et vont se méfier de Bonaparte, et vont même, pour certains dans la presse, et certaines presses titrera, Bonaparte se prend-il pour Fouché, vous voyez ?
Ah oui, à ce point-là.
Parce qu'il y avait, voilà, ah oui, à ce point-là, il y a quelques titres comme ça. Parce que, en fait, ce qu'ils craignent, c'est non pas la force, c'est que cette force-là se retourne et espionne, si vous voulez. Ils regardent un peu trop près les affaires des hommes politiques, en tout cas pour ceux qui sont corrompus ou qui sont de mèche avec les trusts, les mauvais trusts, comme les appelle Roosevelt.
Ouais. Et d'ailleurs, va-t-il faire tomber des personnalités importantes ?
Alors, importantes, oui, il y aura des commissaires, des hauts fonctionnaires, des commissaires des États-Unis, mais importante et très célèbre, non. Ce qu'il va faire tomber, et ce sera le, et Bonaparte aura le nom de Trustbuster, c'est-à-dire de casseur de trust, il va faire tomber l'American Tobacco, c'est-à-dire le trust du tabac. Mm-hmm. Ils vont arriver, mais ce sera un peu plus tard, à bout de la Standard Oil Company. Et d'autres grands trusts. Il faut savoir, par exemple, que Carnegie, le fameux Carnegie, contrôle 95% de l'acier. AT&T, pour les télégraphes et les télécommunications, contrôle 80% des télégraphes. Vous voyez, ce sont des machines énormes qui sont aux mains de milliardaires, mais des milliardaires version début du XXe aux États-Unis, c'est-à-dire dans des proportions inimaginables aujourd'hui. Et donc, ils vont casser ces trusts. Le plus célèbre, ce sera l'American Tobacco pour Bonaparte.
Oui. Et justement, est-ce que pour sa sécurité, il a dû craindre quand même ?
Alors, il sera surtout vilipendé dans la presse, par une certaine presse, mais à la fin, la presse se ralliera à cet esprit et à ces réformes. Il sera soutenu après par la presse. Il n'aura jamais été, à ma connaissance, mis en danger physiquement, si vous voulez. Roosevelt non plus, même si il doit sa présidence à l'assassinat de McKinley, mais c'était par un anarchiste. Oui. Il n'y a pas ce point-là, même si c'était un milieu très très violent, bien sûr, et très très, très brutal.
Quand on veut casser des trusts et qu'on se frotte quand même à des fortunes immenses, on prend des risques importants.
Oui. Ça ressemble un peu, si vous voulez, aux oligarques russes, peut-être d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Ou ceux qui se sont partagés une partie de l'Empire.
Et est-ce que, justement, revenons à la guerre de sécession, donc une dizaine d'années avant, la guerre de sécession, est-ce que les militaires avaient mis en place un service de renseignement efficace ?
Alors, efficace, je dirais non. Et un service, non.
Donc on ne peut pas dire que les nordistes, par exemple, aient gagné contre les sudistes parce qu'ils avaient un bon service de renseignement ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils ont eu à un moment, ils ont mis en place le bureau militaire d'information qui va donner naissance quelques années après, ou qui permettra, ou par certains de ses résultats, faut pas le nier, mais qui va donner naissance quelques années après, en 1882, au renseignement militaire de la marine, puis à celui de l'armée américaine. Mais il n'existe pas à ce moment-là de service de renseignement à proprement dit. C'est-à-dire, on collecte l'information sur les champs de bataille, sur les corps des ennemis, ou en observant le nombre de wagons de trains qui passent, en capturant des esclaves, en capturant des ennemis. Mais il n'y a pas cette notion de service à proprement dit, c'est-à-dire de collecte, de vérification, d'analyse et de mise en perspective du renseignement.
Il n'y a pas d'espions, par exemple, qui sont envoyés dans les troupes nordistes ou sudistes par le camp adverse.
Alors il y en a, mais ce sont plus entre guillemets des coups. L'un des plus importants, si vous voulez, des plus emblématiques pour la partie nordiste, c'est Pinkerton. Vous savez, celui qui a créé l'agence de détective Pinkerton.
Ah, très juste.
Exactement. Ouais. Et qui travaillera donc quelques années après, pour certains détectives de l'agence Pinkerton, après seront recrutés avant la création du FBI, justement par Roosevelt et Bonaparte pour faire quelques enquêtes. Mais ce sont des. Parfois, ils sont assez souvent, ils ne sont pas toujours très fiables, ils coûtent très cher et ils ne rendent pas trop systématiquement compte, si vous voulez, à Bonaparte, mais plus à l'agence. Donc vous avez, chez les nordistes, à un moment, pendant la guerre de sécession, plutôt Pinkerton qui va faire parler de lui, qui va faire ses preuves, mais ce sont des coups, c'est de l'espionnage, si vous voulez, c'est de la collecte de renseignements, mais ce n'est pas... des actions menées, étudiées et menées derrière les lignes ennemies comme on l'entend aujourd'hui.
Oui. Alors, mais par contre,
Oui.
Non, je suis désolé. Et par contre, il crée un service de communication et extrêmement efficace.
Alors, c'est vrai, mais c'est dû, alors, on va dire, au progrès de la technique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pendant la guerre de sécession, vous avez le télégraphe qui va se développer et aussi les ballons de reconnaissance. Donc ça, si vous voulez, ça permet la communication, l'observation. Après, pour ce qui est d'un service qui va vraiment collecter les informations, qui va les analyser, les mettre en perspective, qui va les vérifier, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est peut-être qu'à la toute fin de la guerre, donc avec ce bureau militaire d'information d'un général nordiste, qui va vraiment s'intéresser à ces prémices-là, à cette partie-là. Mais ce dont vous parlez, ce sont plus, on va dire, les progrès techniques qui profitent aussi à l'observation.
Donc, The Army Signal Corps, c'est plus un service de quoi alors? De communication, de quoi?
C'est plus un service de communication qui transmet des messages
Mais
par,
moi, je
alors,
trouve.
au départ, par le
Oui.
si, par le biais des drapeaux, de la lumière, des lanternes, des flambeaux, etc. Et petit à petit, qui va bénéficier des progrès du télégraphe. Et en parallèle, vont arriver, si vous voulez, vont se développer le chiffrement et la cryptologie. Mais c'est plus une façon de transmettre des messages.
Mais c'est très surprenant de vous entendre raconter cela. On a l'impression qu'ils ont un retard considérable. Quand on voit, quand nous avons échangé juste avant sur les services de renseignement de Napoléon pendant je dirais des alliés qui luttaient contre la France, c'est quand même assez impressionnant de voir que tout le monde était parfaitement organisé, que ce soit la Russie, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, etc., la Prusse, pardon, et de voir qu'avec ça, aux États-Unis, dans une période peut-être un petit peu plus avancée, ils ont beaucoup de retard.
Oui, alors après, malgré tout, il y a ce qu'on appelle des espions, etc. Mais ce ne sont pas. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais justement, la guerre, comme dans d'autres moments, va accélérer tout ça. Vous
Ah
avez
oui,
quand même,
c'est-à-dire que
malgré
d'après
tout.
vous, il va y avoir une vraie prise de conscience à
Alors.
partir de la guerre de sécession.
Alors. En grande partie à partir de la guerre de sécession, et ça va être aussi, on va dire, c'est souvent aussi, en tout cas pour les États-Unis, l'œuvre d'individualité. C'est-à-dire vous avez Pinkerton qui va un petit peu travailler cet aspect-là, mais qui sera à un moment écarté parce que justement Lincoln lui reprochera une sorte d'inexactitude à un moment dans une bataille, donc il sera un petit peu, non pas mis sur le côté, mais presque. Et un général américain va le suivre, aucun, et va à ce moment-là, si vous voulez, rationaliser un petit peu ça. Mais la guerre agit comme une sorte de révélateur et de démultiplicateur, si vous voulez, de cette prise de conscience, et après aussi de la mise en commun et du développement à la fois de la technique et de la rationalisation de cet aspect-là.
Donc moralité, il faut qu'il y ait la guerre pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait la création de services de renseignement.
Peut-être pas, c'est une sorte d'étrange morale, mais oui, comme dans
Oui, de
d'autres
ma
domaines
part,
d'ailleurs,
oui, absolument.
dans le domaine des armes,
Oui.
dans le domaine aussi, c'est assez
Bien sûr.
révélateur.
Oui.
Et
Alors,
oui.
pardon, je voudrais que l'on parle également de l'organisation du renseignement chez les confédérés. Puisque nous avons parlé du
Oui.
Nord, eh bien, il faut parler des autres.
Alors là, je dirais pas qu'il est anarchique, hein, mais là, ils n'ont pas, si vous voulez, un Pinkerton qui va un petit peu jouer le rôle d'accélérateur ou bien.
Mais oui, alors
C'est
attendez, je vous interromps.
oui.
Finalement, entre les différentes discussions que l'on peut avoir, on s'aperçoit que finalement, à chaque fois qu'il y a eu une victoire, c'est parce qu'il y a eu un service de renseignement en amont qui a été d'une efficacité redoutable. C'est ce que votre prédécesseur nous a dit, et c'est finalement ce que vous êtes indirectement en train de nous dire. C'est-à-dire que les nordistes étaient bien mieux organisés, et les sudistes, vous l'avez dit, c'était anarchique. Donc finalement, est-ce que la moralité, c'est pas ça? Et si on va avoir une victoire,
morale dans l'affaire, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça le.
Ouais, ouais. Ça c'est là, voilà, c'est quelque chose à voir,
oui, bon, oui.
Qui serait intéressant.
Mais pour les confédérés, ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, ce qui peut intéresser aux auditeurs, c'est que à Washington, donc qui est la capitale fédérale, c'est on va dire entre guillemets un nid d'espions, mais à la fois sudistes et nordistes. Et ce sont en fait des hommes, certains hommes politiques, certains militaires. Ou certaines femmes qui sont bien, bien introduites dans certains milieux mondains, etc., qui jouent ce rôle de collecte de renseignements, mais comme, ou d'informations, comme partout et comme dans notre temps. Mais les confédérés, comme les nordistes, hein, d'ailleurs, ne disposent pas jusqu'au bureau militaire d'information pour les nordistes d'une véritable structure. Les confédérés essaieront à un moment, auront une sorte de base d'embryon qui s'appelle le Secret Service Bureau pour aussi, là aussi, rationaliser et être un peu plus sérieux et transmettre des renseignements, voire des messages codés. Mais l'importance est grande, mais ce n'est pas déterminant. Le renseignement ou la mise en place d'un véritable bureau, d'une véritable structure, c'est le bureau militaire d'information des nordistes qui va donner rapidement naissance, quelques années, très peu d'années après, à le service de renseignement de la marine, qui sera autre chose, et celui de l'armée de terre pour les États-Unis.
Ouais. Donc, comment communiquent les confédérés, comment communiquent les sudistes? Quel est leur type de service de renseignement? C'est de l'improvisation totale?
Non, ce n'est pas de l'improvisation totale, puisqu'il y a aussi de la cryptologie, des courriers, des messages codés, etc. Donc ils communiquent de façon sérieuse. Après, la question importante, c'est vérifier l'information et surtout la mettre en perspective. Là, c'est tout à fait autre chose. Mais par exemple, les confédérés avaient, par exemple, mis en place à un moment une secret line, une ligne secrète entre Washington et Richmond, le long des fleuves, Potomac et Rappahannock. Et c'est par ce biais-là, par cette ligne-là, que les agents transmettaient des renseignements qui étaient recueillis via des messages, via des courriers, et qui étaient transmis aux autorités militaires. Vous voyez, il y a quand même... quand je dis l'anarchisme, j'exagère un peu, mais c'est quand même organisé. Mais on va dire que ça reste, vu d'aujourd'hui, a fortiori, un petit peu, entre guillemets, amateur. Mais la guerre et les conflits vont faire en sorte que l'on va prendre ces histoires et cette partie-là, ces services, ce renseignement très au sérieux, parce que fondamental pour connaître, bien sûr, l'avancement des troupes, l'ennemi, la position, etc. Et donc, au fur et à mesure du temps, va être rationalisé. Et l'armée, tout de suite, rapidement après la guerre de sécession, va créer ses deux propres structures dans la marine et dans l'armée de terre. Et là, on va avoir un véritable service de renseignement militaire, dans un premier temps, qui rassemblera à la fois des militaires et des civils, et qui va se développer et qui donnera naissance en parallèle, non pas au FBI, mais on va dire à la CIA.
Alors, pour terminer, je voudrais que vous nous parliez quand même d'une figure qui est une femme, une figure importante de l'espionnage de la part des confédérés, de la part des sudistes, c'est Rose O'Neill.
Oui. Alors, c'était une dame qui avait été recrutée justement par... à la tête, si vous voulez, de l'espionnage sudiste à Washington. Il y avait John Netscher, qui était le gouverneur de Virginie et un ancien membre du Congrès, et qui avait, comme de nombreux hommes politiques américains, une vie mondaine et une vie sociale très active à Washington. Et Netscher va recruter deux agents importants pour les sudistes, un officier sorti de West Point, Thomas Jordan, et Rose O'Neill, qui est une femme qui est une femme qui est très très, comment dire, qui connaît, très introduite dans les milieux sociaux, politiques de Washington, qui a une quarantaine d'années, qui est veuve, qui est très en vue à Washington, et Elle va devenir un élément clé de l'espionnage sudiste par sa connaissance, si vous voulez, des cercles mondains et politiques de la capitale. Et aussi sa fréquentation de très nombreux membres du Congrès, ainsi que, on va dire, des généraux et des officiers.
Est-ce que c'est une femme mondaine ou est-ce que c'est ce qu'on appelle pudiquement une demi-mondaine à l'époque ?
C'est-à-dire alors,
une femme un peu
une
légère
femme
qui va juste... Pardon ?
Je dirais une femme mondaine, mais...
C'est une femme mondaine. Donc, elle n'abuse pas, je vais dire, de ses charmes, certaines personnalités, pour leur soutirer des informations.
Alors, peut-être qu'elle abuse de ses charmes, mais pas jusqu'au bout, on va dire.
Mais pas
c'est
dans
une grande séductrice,
cadre...
si vous voulez, oui. Voilà, elle est très appréciée, très en vue, si vous voulez. Voilà.
Oui, donc,
et
c'est
justement,
pas une espionne complète, quoi. Comme on peut l'entendre souvent aujourd'hui.
C'est pas une Matahari.
Exactement, c'est... voilà, merci.
À ma connaissance, hein, je peux me tromper, je suis pas... Et par exemple, je crois qu'en en juillet, à l'été 1861, le général Sudis Beauregard va disposer, grâce à elle, d'informations très importantes qui vont permettre, hein, comme vous en faisiez référence il y a quelques instants, à l'armée sudiste d'infliger une sévère défaite aux nordistes. Je crois que c'est pendant la première bataille de Bull Run. Et alors, comble, on ne va pas dire de l'ironie, mais pour la petite histoire, elle sera arrêtée un peu de temps après, par qui ? Par Pinkerton, qui est en charge à ce moment-là, Pinkerton. Il avait deux aspects, si vous voulez, dans ce domaine-là. Il faisait du contre-espionnage pour les nordistes à Washington, et Lincoln voulait aussi qu'il aille justement, comme vous en parliez aussi, derrière les lignes sudistes pour faire des coups et récolter des informations. Et c'est Pinkerton qui va arrêter à l'été 1861 Rosenhill, et qui va trouver chez elle des preuves irréfutables de sa conduite, c'est-à-dire des cartes de fortification de Washington, ainsi que des notes sur les mouvements des troupes de l'armée du Nord. Et donc, qui va faire tomber Rosenhill grâce à Pinkerton.
Ouais. Et on est sûr que c'était la réalité, c'était pas un montage.
Alors, bonne question. Non, c'était la réalité, je pense.
Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup Laurent Moynard pour votre excellente participation justement à cette revue dont je rappelle le nom. Je ne l'ai plus sous les yeux.
Renseignement et espionnage.
Voilà, renseignement. Alors parce que j'allais mettre histoire, parce que moi j'ai intitulé ça histoire du renseignement, mais en vérité vous appelez ça renseignement et espionnage du Premier Empire à l'affaire Dreyfus. Évidemment, nous n'avons abordé qu'un petit bout de l'iceberg puisque vos ouvrages sont conséquents et passionnants. Merci beaucoup, cher Laurent Moynard.
C'est moi qui vous remercie. À très bientôt, monsieur.
À très bientôt, merci.